comment les journaux, les journalistes, sont autant tenus, d'abord tenus sur le plan capitalistique, puisque ce sont ces grands patrons qui les contrôlent, ensuite tenus sur le plan des personnes, puisque les grands journalistes, bien entendu pas tous les journalistes, mais les grands journalistes, ceux dont les signatures comptent, sont des gens qui sont directement reliés à ces milieux. Donc comment se lancent les grandes campagnes fascistes ? Par la presse. Qui contrôle la presse ? Le grand patronat et les archives policières permettent de reconstituer tout cela.
Ces élites françaises, banquiers, hommes d'affaires, patrons, etc., avaient un grand argument pour justifier ce que vous expliquez là, leur but, ce modèle fasciste, ce rapprochement avec l'Allemagne, c'était la lutte contre le bolchévique. C'était le danger. Il était là avec son couteau entre les dents. Très souvent, il était juif aussi. C'était le péril judéo-bolchévique contre lequel il s'agissait de lutter. C'était ça, le moteur. C'était voilà l'ennemi.
Alors, vous voyez, ça, c'est une thèse qui est pertinente, mais qui n'est pas suffisante. Alors, elle est pertinente. C'est incontestable. C'est-à-dire que quand vous travaillez sur les archives de l'entre-deux-guerres, et en particulier dès le début, vous êtes frappé par le choc. Je pense qu'il n'a pas existé de choc plus grand. Je ne suis pas sûr que le choc sur l'aristocratie européenne de la Révolution française était peut-être plus grand que le choc qu'a provoqué 1917. C'est vrai que le bolchevisme est devenu une véritable obsession. C'est vrai que la haine anti-bolchevique, la haine de l'URSS, qui se reflète de manière caricaturale dans la littérature de la Banque de France. Quand la Banque de France parle de l'URSS, elle se permet, par exemple, de ne parler que des soviets. Quand l'URSS demande des relations économiques avec la France, dans les textes de la Banque de France, il n'est question que de soviets, traités en malfaiteurs. Enfin, vous avez raison, c'est une obsession. C'est une obsession dont il faut prendre la mesure pour le rejet de l'alliance franco-soviétique. Mais c'est un élément qui n'est pas exclusif. C'est-à-dire que le bolchevisme est aussi une bonne à tout faire qui sert de couverture à des tas d'éléments qui ne relèvent pas de cette sphère. Alors, quel est l'autre élément majeur ? L'autre élément majeur, c'est que le patronat était littéralement pâmoison devant l'Allemagne pour plusieurs raisons. D'abord pour des raisons économiques. Parce qu'il était comme le patronat américain, comme le patronat anglais et bien d'autres, il avait inondé l'Allemagne de crédit. L'Allemagne était un énorme débiteur, et pour que dans la crise systémique de 1931, ces gens ne courent pas le risque de voir tout s'effondrer, eh bien il a fallu soutenir le fameux débiteur, c'est-à-dire faire appel aux contribuables dans tous les pays. Et ces contribuables dans tous les pays ont payé la crise systémique de 1931 et le fait que le patronat français, comme les autres, ait surveillé l'Allemagne comme le lait au coin du feu, c'est-à-dire souhaiter que surtout l'Allemagne ne se mît pas en colère et ne mît pas en question sa dette privée. Je ne parle pas des réparations, elles étaient liquidées depuis le début des années 1930. Je parle de la dette privée, c'est-à-dire des emprunts d'Oz et Young, des emprunts des deux plans américains qui avaient liquidé les réparations. Et l'argent prêté n'avait pas du tout servi à payer les réparations. L'argent prêté avait servi à renforcer l'économie de l'Allemagne et à réarmer l'Allemagne. Parce que c'est sur la base de ces emprunts que l'Allemagne s'est réarmée. Et il faut le dire, le patronat français a été aussi impliqué que le patronat américain ou le patronat anglais. Donc, il fallait ne pas contrarier le débiteur. Quand, par exemple, l'Allemagne progressait dans son avance territoriale, eh bien, il y avait pression immédiate de la Banque de France sur le gouvernement, dès que le gouvernement voulait esquisser un mouvement de fermeté, car il ne fallait pas que le chef de la Reichsbank, Hjalmar Schacht, pût dire « Ah, nous ne paierons pas les intérêts d'Oz et Young ». Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est l'intérêt commercial. Étant donné que la France ne réarmait pas, que l'Allemagne réarmait, eh bien, le Reich achetait tous les produits qui n'auraient pas eu de marché si on n'avait pas vendu à l'Allemagne. De sorte que le fer qui n'a pas servi à faire notre armement, la bauxite qui n'a pas servi à faire nos avions,